France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Marine Le Pen, Jordan Bardella, main dans la main ce matin au Salon de l'Agriculture pour afficher leur unité alors que l'ex-candidate à la présidentielle assiste à la montée en puissance du président du RN. Reportage à suivre. Nous parlerons aussi dans les prochaines minutes des élections municipales. Comment les candidats financent-ils leur campagne ? À suivre encore cette opération anti-mafia. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Et l'arrestation d'un gros bonnet de la drogue à Cannes.
Parmi les 7 personnes interpellées, effectivement près de Cannes et en Italie, il y a, selon nos informations, Jelko Martinovic, un très gros narcotrafiquant traqué depuis des années, logisticien au service des plus grands cartels européens.
Et tous les détails sur cette opération avec vous dans quelques minutes. Nous parlerons également des ventes de l'immobilier ancien dans notre pays qui repartent à la hausse, du redécollage économique de l'Argentine, de la longévité des dauphins qui s'effondrent dans le golfe de Gascogne. Et puis nous prendrons des nouvelles d'un acteur, Jim Carrey. Il reçoit ce soir un César d'honneur, mais il a quasiment disparu des écrans.
I'm taking a break. Je fais une pause. J'apprécie vraiment ma vie tranquille et je sens que j'en ai assez fait. Je suis bien comme je suis.
Et on vous dira pourquoi dans quelques minutes. À partir de 13h30, la directrice générale du slip français est notre invitée. Une marque de prêt-à-porter, car trouver ses clients en baissant ses prix et en produisant en France. Quelle est la recette ? 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France, une cuisine solidaire qui mêle réfugiés et habitants. C'est dans la Nièvre, c'est Marie-Luce Ribaud qui raconte. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La chanteuse Barry demande Jeanne Moreau, Napoléon, une chanson qui lui rappelle un souvenir particulier.
Elle est très amusante déjà, elle est très dure à chanter. Et elle est d'une cruauté absolument incroyable. Et cette cruauté est interprétée par Jeanne Moreau dans une douceur. Ben, c'est Jeanne Moreau, quoi.
Et ce sera avec Julien Baldacchino. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
L'an dernier, ils étaient venus chacun de leur côté. Marine Le Pen et Jordan Bardella étaient ensemble ce matin pour déambuler dans les allées du Salon de l'Agriculture. Car depuis, la donne a changé. La triple candidate à l'élection présidentielle a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du FN. En appel, il y a quelques semaines, le parquet a redemandé sa condamnation. Elle s'y prépare. Hier soir, elle a prévenu qu'elle ne ferait pas campagne avec un bracelet électronique. Bref, Jordan Bardella est de moins en moins un plan B pour la présidentielle de 2027. Bonjour Lise Rosveille.
Bonjour.
En direct du Salon de l'Agriculture, vous avez suivi cette déambulation ce matin lors de laquelle le duo a voulu mettre en scène sa complicité.
Sourire complice, oui, des brebis dans les bras et les pieds dans le foin. Marine Le Pen et Jordan Bardella déambulent côte à côte, pas un devant l'autre.
Allez Marine, allez
Jordan ! Les électeurs répartissent les encouragements et Jordan Bardella convie la patronne sur les selfies.
Merci, avec Marine.
Avec Marine, si c'est possible. Avec Marine, bien sûr.
Les deux candidats potentiels à la présidentielle s'affichent soudés, ne laissent transparaître aucune tension, un duo en campagne.
On vient apporter une dose d'espoir à l'agriculture et même une double dose d'espoir parce qu'ils en ont bien besoin.
Nous avons toujours fait bloc, personne n'en doute, nous travaillons ensemble main dans la main et je vais vous faire un scoop, nous allons continuer à travailler main dans la main.
Juste à côté, Daisy, fidèle électrice, a le sourire, c'est bien qu'ils soient là tous les deux. Jordan soutient Marine, le président du RN, premier soutien mais surtout premier remplaçant.
Depuis le procès en appel de Marine Le Pen, Lise Rosveille, elle donne le sentiment de s'effacer. Est-ce que c'était le cas aussi ce matin ?
Elle ne prend pas toute la lumière, mais pas question de se faire toute petite. Marine Le Pen est la première à répondre aux questions des journalistes, prend la parole au micro face aux agriculteurs. Elle reste la candidate numéro 1 et Jordan Bardella fait très attention à ne pas prendre trop de place, quitte à se répéter.
Je me prépare à devenir chef du gouvernement. Marine se prépare à devenir présidente de la République. Nous travaillons ensemble main dans la main.
Quel sera le rôle de Marine Le Pen s'il est candidat ? Jordan Bardella botte en touche, gêné. Elle ne sera pas une simple conseillère spéciale à sur un proche du président du RN. Marine Le Pen ne compte pas s'effacer et le clan de son dauphin veille à ne pas la pousser dehors.
Merci Lise Rosveille en direct du Salon de l'Agriculture avec les moyens techniques de Benjamin Reyes ce matin sur un autre dossier. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis aux syndicats agricoles que le projet de loi d'urgence agricole sera bien examiné fin mars en Conseil des ministres. L'actualité politique aujourd'hui concerne les plus de 35 000 communes communes de France, les candidats pour les élections municipales ont jusqu'à ce soir 18h pour déposer leur liste en préfecture ou en sous-préfecture, ce qui nous amène à notre rendez-vous avec la campagne. Les clés des municipales. Pour tout comprendre à ces élections, c'est avec vous Maxence Lambrec. Bonjour Maxence.
Bonjour.
Chaque semaine ici même, aujourd'hui on s'intéresse au nerf de la guerre, l'argent. Comment les candidats financent-ils leur campagne ? D'abord, est-ce que ça coûte cher ?
C'est quelques milliers d'euros une campagne municipale en général. Et c'est comme pour la présidentielle, il faut passer la barre des 5% des voix pour être remboursé. Ça, on décourage certains. L'ampleur du remboursement dépend du nombre d'habitants. Dans les villages et même dans les petites communes, moins de 9000 habitants, l'État considère qu'il n'y a pas besoin d'une campagne d'ampleur. Et donc, si vous faites 5%, on ne vous rembourse que les bulletins de vote, les affiches officielles et les professions de foi à mettre vous-même dans les boîtes aux lettres si vous habitez dans un village, pas d'envoi postal de la préfecture.
Et pour les villes de plus de 9000 habitants ?
Là, il y a un barème très précis. Pour Chantilly, dans l'Oise, ville de 10 000 personnes, c'est 8 000 euros de remboursement. À Nancy, ça peut monter à 60 000 et vous ne pouvez pas dépenser plus du double. Il y a un plafond, par souci d'équité, maximum 130 000 euros de dépenses à Nancy, 230 000 à Nantes, 3 millions pour tous les arrondissements de Paris. On vous rembourse, sauf si votre campagne a été entièrement financée par des dons de particuliers. Vous ne pouvez pas vous enrichir sur le dos de vos soutiens.
Justement, d'où vient cet argent ?
Alors, beaucoup de candidats partent sur leur propre denier, empruntent à titre personnel et font campagne avec leur calculette. Souvent, ils demandent à chacun de leurs colistiers un chèque, une sorte de ticket d'entrée, 50, 100, 200 euros, sachant qu'un particulier ne peut pas donner plus de 4600, c'est comme pour la présidentielle.
Est-ce qu'on peut demander à une association de donner un coup de main ?
Surtout pas, aucun chèque, aucun cadeau non plus, pas possible de prêter sa salle, de faire une animation gratuite, même chose pour les entreprises, tout doit être facturé en respectant les prix du marché.
Il n'y a donc que les partis politiques qui peuvent aider ?
Oui, en prêtant de l'argent à leurs candidats, mais c'est de plus en plus rare. LR et RN, par exemple, ne prêtent rien, chacun se débrouille. Le PS et les écolos donnent un peu, mais ils vérifient d'abord si vous allez vraiment passer les 5%. Mmh. Certains adhèrent au parti pour avoir cet emprunt. Quant aux maires sortants, ils sont nombreux à avoir attendu le dernier moment pour déclarer leur candidature, pour laisser leurs adversaires boxer dans le vide, mais aussi pour être tranquille en termes de compte de campagne, ne pas se faire imputer des dépenses de décembre ou de janvier.
Quelles sont les principales dépenses d'un candidat ?
La communication, se faire connaître, souvent 1000-2000 euros pour qu'une agence vous conseille pour une série de tracts. Côté graphisme, le logo, le visuel, l'intelligence artificielle a bien aidé dans cette campagne. Ensuite, c'est la location de salle pour la permanence, les réunions publiques, la sono, du classique. Certains ont tenté de mettre l'abonnement à une salle de sport dans les comptes de campagne pour, je cite, tenir le rythme.
Ah, il faut que le candidat soit en forme, voilà. Donc j'ai le droit d'aller à la salle.
Des paquets de cigarettes pour apaiser toute l'équipe.
Rembourser ça.
Voilà, des croquettes pour chiens pour le toutou de la campagne.
D'accord.
Un rendez-vous chez le coiffeur pour la photo du tract. Et bien tout ça, évidemment, n'a pas passé la barre de la commission des comptes de campagne qui devra recevoir tous les comptes de tous les listes d'ici à la mi-mai.
Merci Maxence Lambrec. L'argent donc des campagnes municipales dans notre rendez-vous aujourd'hui. On a parlé les semaines précédentes, Maxence, des pouvoirs du maire. Voilà un pouvoir plutôt inattendu. C'est celui de décider des livres qui sont proposés par la médiathèque de sa commune. Ainsi, dans l'Orne, le maire de la commune de Bretoncelle a décidé de censurer un livre intitulé « Fille de pute ». L'ouvrage a été écrit par une habitante de cette commune. Il n'est pas injurieux, il n'est pas licencieux. L'autrice y raconte sa jeunesse en Normandie. Ce livre est d'ailleurs disponible ailleurs dans la région, mais pas dans cette médiathèque, Rachel Coquiot.
Une médiathèque que connaît bien Swann Dupont. Elle y va d'ailleurs très souvent avec ses enfants.
Il n'y a pas beaucoup d'auteurs dans la région quand même. Donc quand on a une autrice dans son village, ce serait pas mal d'avoir son livre en médiathèque. Et surtout, mon livre, il parle de ma jeunesse dans cette ruralité-là en fait.
Et elle a voulu rencontrer le maire pour tenter de comprendre ce refus.
Il n'en est rien ressorti. Monsieur le maire m'a avancé qu'il n'avait pas lu le livre. Donc c'est un petit peu s'avancer aussi sur le contenu du bouquin en question.
La jeune autrice n'est pas la seule, indignée par cette décision. Marie-Laurent tient la librairie de Rémalard en Perche, commune toute proche ou à Grandissoine.
Je pense que c'est n'importe quoi. C'est d'abord un problème que le maire valide ou pas les livres qui sont à la bibliothèque. Il me semble que c'est pas du tout son rôle.
En janvier dernier, Marie-Laurent a reçu l'écrivaine en dédicace et elle en garde d'ailleurs un très bon souvenir.
Je suis hyper fière qu'on ait fait une dédicace ici. Il n'y a jamais eu une telle diversité de personnes. C'était un moment magnifique. Et Swann, elle vient nous apporter ça. Elle raconte notre village d'une façon qui n'a jamais été encore racontée.
Mais Swann Dupont ne compte pas lâcher lancer l'affaire. Pleine de ressources, elle a imaginé une possible ouverture.
On a une boîte à livres super à Bretoncel. Je vais mettre un exemplaire de mon livre à disposition là-bas.
Reste que cette censure continue à renforcer son envie d'écrire et résister, pour elle, c'est empêcher toutes les dérives.
Et contacté à plusieurs reprises, le maire de cette commune n'a pas souhaité donner suite. Reportage ici, Normandie.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
L'enquête des autorités suisses, italiennes et françaises a duré près de 3 ans. 3 années sur la trace d'un réseau qui importait de la cocaïne d'Amérique du Sud avant de la livrer en France et en Italie, puis de blanchir cet argent. Le procureur de Marseille annonce ce matin que 7 personnes ont été arrêtées près de Cannes lundi. Dans le cadre donc de cette enquête, Emmanuel Leclerc, on vous retrouve. Parmi ces personnes, un homme originaire du Monténégro est présenté comme l'un des plus gros chefs mafieux jamais arrêtés dans notre pays.
L'homme que sont allés arrêter des dizaines de gendarmes et le GIGN à 6h du matin lundi sur les hauteurs de Cannes, dans une très belle villa, n'est autre, selon nos informations, que Zeljko Martinovic. Une ombre qui apparaissait dans toutes les messageries cryptées infiltrées par les polices européennes ces dernières années, sous différents pseudos, sous différentes identités. Jean-Philippe Lecouf est le chef des opérations à Europol après avoir dirigé le pôle judiciaire de la gendarmerie en France.
C'est vraiment un des très très gros trafiquants connus européens qu'on chassait et que plusieurs polices européennes chassaient depuis un moment.
Martinovic est soupçonné d'être le principal logisticien de plusieurs dizaines de cartels européens. Ce matin, dans un communiqué, effectivement, le procureur de Marseille, Nicolas Besson, révélait que l'homme est soupçonné d'avoir investi dans plusieurs villas et appartements dans les Alpes-Maritimes. Mais on estime que Martinovic a blanchi dans le monde entier plusieurs milliards d'euros ces 10 dernières années.
Les rôles restent encore à définir. Ce qui est sûr, c'est que les gens avec lesquels il a été arrêté, c'est des gens dont on a pu établir formellement des liens avec la Camorra napolitaine ou la Drangheta calabraise.
Et vous les soupçonnez d'être des banquiers occultes, des blanchisseurs en chef, c'est bien cela ?
C'est bien cela.
Des blanchisseurs capables de gérer 100 de comptes sur la messagerie Signal. Il reste donc encore de nombreuses investigations pour découvrir l'ampleur du patrimoine de ce suspect, l'un des plus gros chefs mafieux jamais interpellés en France.
Merci Emmanuel Leclerc. Il est en détention provisoire pour le meurtre de Louise, 11 ans. C'était en février dernier à Épinay-sur-Orge dans l'Essonne. La jeune fille avait été retrouvée, on s'en souvient, assassinée dans un bois à Longjumeau. Et bien ce jeune homme de 23 ans est aujourd'hui mis en cause dans 2 autres affaires. Il est mis en examen pour les viols de 2 autres mineurs. Les faits auraient été commis en 2021 et 2023, c'est-à-dire avant le meurtre de Louise. L'avocate de ce jeune homme conteste ces accusations. À Batte-sur-Mer, en Loire-Atlantique, une baigneuse de 16 ans a disparu en mer hier en fin de journée. Elle était à 20 mètres du rivage lorsque les 2 personnes qui l'accompagnaient et qui étaient restées sur la plage l'ont perdue de leur champ de vision. Les recherches engagées hier soir pendant 2h30 n'ont rien donné. Et puis dans le détroit du Pas-de-Calais, près de 119 personnes ont été secourues dans la nuit de mardi à mercredi lors de plusieurs opérations qui ont été coordonnées par les secours. Il s'agit d'embarcations de migrants qui tentaient de traverser la mer du Nord en direction du Royaume-Uni. Qui a menti ? Qui a menti devant la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public ? Devant les députés, la désormais ex-ministre de la Culture, Rachida Dati, avait accusé le magazine Complément d'enquête d'avoir proposé de l'argent à l'un des membres de sa famille. Tout cela pour obtenir, disait-elle, des informations, ce que les journalistes de France 2 avaient démenti. Et ce matin, pour prouver leur bonne foi, bonjour Xavier Demani.
Bonjour.
Ils publient de nouveaux éléments.
Oui, ce sont nos confrères du site franceinfo.fr qui ont pu consulter 3 emails et dont Complément d'enquête nous confirme à la fois l'existence et le contenu des emails transmis ce week-end à la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. L'auteur est un membre de la famille de Rachida Dati. Au lendemain des déclarations de cette dernière à l'Assemblée, il écrit spontanément à l'un des reporters de l'émission. Premier email le 6 février, je cite « Elle mélange tout ». Deuxième email, 20 minutes plus tard, « Je suis désolé de ce qu'elle raconte, je n'ai jamais dit que vous m'avez proposé de l'argent ». Il précise toutefois que par le passé, d'autres journalistes français et belges ont tenté ce type de transaction contre des informations, mais jamais ceux de Complément d'enquête. Troisième et dernier email, le 7 février, je suis prêt à témoigner sous serment s'il le faut. L'ex-ministre s'est-elle mélangé les pinceaux et accuse-t-elle depuis plusieurs mois les journalistes de l'émission d'investigation à tort ? Son entourage ne nous a pas répondu, mais a bien transmis des échanges venant étayer ses affirmations. En cas de faux témoignage, des poursuites pourraient être engagées, rappelle le président de la commission d'enquête, Jérémy Patrier-Lettus. Théoriquement, un mensonge sous serment à l'Assemblée peut être puni jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Xavier Demany, est-ce la reprise que les professionnels de l'immobilier attendent depuis 3 ans ? Les prix des logements anciens en France sont repartis à la hausse l'an dernier et le nombre de transactions réalisées est lui aussi remonté. 2025 serait même l'une des meilleures années si l'on regarde 20 ans en arrière. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Jérôme.
On va rentrer dans le détail avec vous. D'abord, c'est vrai que ça va mieux dans l'ancien.
Ah oui, c'est une page qui se tourne clairement. Après 2 années de très fort repli, on assiste à un rattrapage tout aussi net sur le nombre de ventes. 12% de transactions supplémentaires sur un an. Elles approchent la barre symbolique du million, même si on reste loin des pics d'avant-Covid. Parmi les explications principales pour ce rebond, les taux d'intérêt, évidemment. Maître Laurent Rose est notaire à Nice.
La baisse des taux est venue quand même nous aider, puisqu'on était à des taux qui pouvaient, sur les années précédentes, dépasser 4%. La baisse des taux a ramené les taux d'emprunt aux alentours de 3,15, 3,20. Donc ça a resolvabilisé en réalité les acquéreurs.
Mais qui dit plus de ventes, dit aussi, et c'est une moins bonne nouvelle pour les acheteurs, une hausse des prix. Ils ont rebondi de plus d'1% dans l'ancien, et c'est une moyenne nationale. Hein. Localement, l'augmentation est plus forte, par exemple en région PACA ou dans les Hauts-de-France. Donc clairement, dans l'ancien, la courbe s'est inversée.
En revanche, Alexis, c'est beaucoup plus contrasté dans le neuf.
Oui, là, on n'est pas encore sorti de la crise. Hein. La construction de logements neufs a atteint l'an dernier son plus bas historique, moins de 65 000 opérations engagées par des particuliers. Mais le bâtiment commence à reprendre espoir. Il y a des signaux encourageants. Le rebond tout récent des maisons individuelles, par exemple. Les professionnels comptent aussi beaucoup sur le nouveau dispositif du bailleur privé, une ristourne fiscale pour encourager les ménages à investir dans la location pour louer.
Explication Alexis Morel. C'était attendu, le millésime 2025 a été catastrophique pour le constructeur automobile Stellantis, qui regroupe les marques Peugeot, Citroën, Fiat ou encore Chrysler. Les chiffres ont été publiés ce matin. Plus de 22 milliards d'euros de pertes l'an dernier, la deuxième plus importante jamais enregistrée par un groupe français, ce qui s'explique par les coûts de la nouvelle stratégie de baisse de la production des véhicules électriques qui se vendent beaucoup moins que prévu. Toujours dans l'actualité économique, le rebond de l'économie argentine. On se souvient de son inflation galopante, 211% en 2023. Le pays enchaînait alors les défauts de paiement. Le nouveau président, Javier Milei, élu fin 2023, se faisait fort de rétablir la situation en taillant dans les dépenses. Et bien pour la deuxième année consécutive, cette croissance argentine progresse, plus 4,4%. Bonjour Élie Duco.
Bonjour Jérôme.
Porté par les bons résultats du secteur agricole.
Et oui, notamment une récolte de blé très rentable qui a bénéficié de baisses de taxes aux exportations. Mais cette croissance en trompe-l'œil ne bénéficie pas à toute la population, selon Jonathan Marie, professeur d'économie à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine.
Cette croissance, elle est inégalement répartie dans les secteurs. Le secteur agro-exportateur, le secteur financier, le secteur de l'exploitation des mines sont aussi des secteurs qui emploient peu de travailleurs. Et ce sont les secteurs qui profitent le plus du boom de l'activité économique. Quand les secteurs plus travaillistiques, qui emploient plus de travailleurs, sont eux des secteurs qui souffrent.
Et car la méthode de la tronçonneuse appliquée par Milei se fait au prix d'une sévère austérité budgétaire qui a plongé de nombreux Argentins dans la précarité. Aujourd'hui, le taux de pauvreté diminue et l'inflation recule. Dans les supermarchés, les Argentins achètent moins car ils dépensent beaucoup plus ailleurs, dans d'autres postes qui augmentent, l'eau, l'électricité, le gaz et les transports. Cette année, le gouvernement argentin mise sur 5% de croissance. Soutenu financièrement par Donald Trump, Milei prépare plusieurs réformes pour déréguler la fiscalité, le système de protection sociale ou encore le marché du travail. Ce dernier projet de loi est très contesté, adopté la semaine dernière par les députés argentins en pleine journée de grève générale.
Explication Élie Duco. À l'étranger, à Genève, l'Iran et les États-Unis ont entamé ce matin une nouvelle session de négociations indirectes. Ça ne se passe pas en face à face, mais avec la médiation des représentants de l'État d'Oman et le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique y participe également. Car c'est bien le dossier nucléaire qui est sur la table, pas celui du programme de missiles de l'Iran, ce qui ne convient pas du tout au chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, il l'a dit la nuit dernière.
L'Iran possède un très grand nombre de missiles balistiques, notamment des missiles balistiques à courte portée qui menacent les bases de nos alliés dans la région, ainsi que toutes nos bases aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et à Bahreïn. C'est important que tout le monde le comprenne. Au-delà de son programme nucléaire, l'Iran possède des armes conventionnelles conçues exclusivement pour attaquer l'Amérique et les Américains. Les négociations porteront principalement sur le programme nucléaire et nous espérons que des progrès pourront être réalisés, car c'est la priorité du président Trump, progresser sur le plan diplomatique. Mais il est également important de rappeler que l'Iran refuse catégoriquement de discuter du sujet des missiles balistiques, et c'est un problème majeur.
Marco Rubio, traduit par Frédéric Saïs, le président iranien Massoud Pezeshkian, lui assure que son pays ne cherche pas à se procurer d'armes nucléaires. Fin de citation. L'Iran... Il en sera aussi question ce soir lors de la cérémonie des Césars, les récompenses du cinéma français, avec parmi les 5 œuvres prétendantes au César du meilleur film, celle de l'Iranien Jafar Panahi, Un simple accident, déjà primé à Cannes l'an dernier. Mais depuis, la répression du régime a fait au moins 30 000 morts dans le pays début janvier. Alors un trophée ce soir ferait aussi figure de symbole, Corinne Pellissier.
Sa palme d'or en mai dernier l'a conduit dans tous les festivals, toutes les compétitions prestigieuses. Nommé 4 fois aux Golden Globes, 2 fois aux Oscars où il représente la France, Jafar Panahi, plus que jamais, est le symbole de résistance que les Césars ne sauraient ignorer. A commencer par ses concurrents dans la catégorie du meilleur film. Léa Drucker, ici à l'affiche du dossier 137 de Dominique Moll, nommé 8 fois.
Je comprends que des auteurs comme Jafar Panahi cherchent du côté de la France un soutien. Le film est absolument merveilleux et je trouve que heureusement qu'on a un système en France qui permette à son cinéma d'exister et de nous parvenir.
Un simple accident, produit en France, concourt aussi pour son scénario. Inspiré de la vie en prison du cinéaste et de son co-auteur, Mehdi Mahmoudian, arrêté à nouveau en début de mois pour avoir dénoncé la répression violente des manifestations en Iran. Camille Cotin, la présidente de la cérémonie cette année, ne l'oubliera pas.
Dans une époque extrêmement compliquée, sombre, on a assisté complètement désespéré au meurtre en Iran. Le scénariste de Jafar Panahi est en prison. Jafar sera là.
Autre symbole fort, la comédienne en exil Golshifteh Farahani, autrice d'une déchirante tribune dans Le Monde le mois dernier sur les massacres perpétrés par le régime des Mollahs, sera elle aussi sur la scène de l'Olympia pour remettre une récompense.
Corinne Pellissier, et on va reparler des Césars dans un instant. Une nouvelle personnalité mise en cause dans le scandale Jeffrey Epstein, personnalité internationale puisque c'est le patron du Forum économique mondial de Davos qui annonce ce matin sa démission puisque Børge Brende, ancien diplomate norvégien, fait l'objet d'une enquête. Dans ce dossier, il a reconnu avoir échangé plus de 100 SMS et des courriels, avoir rencontré également le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Nous vous avons déjà parlé ici même de ce phénomène culinaire. Le poulet crousti, ce poulet frit agrémenté de riz avec beaucoup de sauce qui séduit les jeunes avec, c'est vrai, des opérations marketing à la clé qui parfois virent à l'émeute, ce qui s'est produit une nouvelle fois hier à Périgueux. Une enseigne avait promis un plat gratuit aux 30 premiers clients. Ils sont plus d'une centaine à avoir débarqué. La police a dû intervenir. La suite, c'est Marie-Astrid Guégan qui raconte.
Il y a tellement de lycéens que la porte automatique casse sous leur poids. Au moins une centaine courent à l'intérieur. Le patron, Mohamed, est débordé.
Je ne voulais pas appeler, je ne voulais pas faire intervenir la police, mais j'ai vu qu'ils sont, venus jusqu'à là. J'avais peur quand on commence le service et tout le monde va rentrer dedans dans la cuisine. Donc à ce moment-là, j'ai pris la décision pour avoir leurs aides.
Mais même les policiers municipaux ont du mal à faire sortir tout le monde.
Faut que tu mettes quelqu'un devant là, on va pas y arriver.
Dès qu'on a fini les cours, on a couru et on est venu.
Parce qu'on a faim, c'est gratuit en plus.
Il y a tout le monde qui se pousse, c'est un bruit un peu chiant là.
Les jeunes, reculez, tout le monde aura quelque chose.
Une fois que ça se calme, Sarah, Exaucé et Khadija sont les premières servies. C'était pourtant les dernières arrivées.
Elle a été sage, c'est tout.
C'est l'injustice, juste l'injustice. Moi, elle était là à 8h45 du matin, j'étais là et moi j'ai pas eu mon croustille.
On est arrivé calmement, on n'a pas fait de chahut.
Marc et Jürgen attrapent enfin un bol de riz, poulet et sauce.
C'est délicieux.
Combien sur 10?
1 million sur 10. C'est pas sec vu qu'il y a de la sauce. C'est magnifique.
Dans la rue, Agnès et Isabelle ouvrent de grands yeux.
Mais que se passe-t-il ?
On croyait que c'était une rixe, mais c'est l'ouverture de Técrousti.
La police municipale ne repart qu'une fois, tous les jeunes servis, 2 heures plus tard.
Reportage ici Périgord. La mauvaise passe du bio en France confirmée. Le nombre de producteurs engagés en agriculture biologique a baissé pour la première fois l'an dernier. Moins 0,6%, ça veut dire 386 fermes bio en moins dans notre pays, même si dans le même temps, la consommation de produits bio est nettement repartie à la hausse l'an dernier, plus 3,5%. Les hivers sans pêche dans le golfe de Gascogne n'ont visiblement pas encore assez d'effet sur la population de dauphins. Les scientifiques viennent d'étudier la longévité des femelles dauphins dans le golfe de Gascogne, donc du Finistère au Pays Basque. C'est la façade ouest. Je précise aussi que la longévité, c'est l'âge maximal qu'un individu peut atteindre. On ne confond pas avec l'espérance de vie. Eh bien, cette longévité a diminué de 7 ans. Bonjour Paul Tillier.
Bonjour Jérôme.
Elle est passée de 24 à 17 ans. C'est une chute brutale et le responsable, c'est l'homme.
Oui, 1900 dauphins se sont échoués l'hiver dernier dans le golfe de Gascogne, étouffés pour la plupart après avoir été pris dans les filets des pêcheurs. Grâce à l'analyse des dents de ces animaux, les chercheurs ont pu déterminer leur âge au moment de leur mort. La longévité des femelles a chuté de 7 ans. Mathieu Autier est ingénieur à l'université de La Rochelle.
Parmi tous les animaux que l'on retrouve échoués à la côte sur le littoral atlantique, on n'a plus de vieux individus. En fait, les individus, les animaux sont de plus en plus jeunes. Et ça, c'est un mauvais signe en fait, vis-à-vis de la viabilité de la population.
Constat particulièrement inquiétant, les femelles dauphins sont censées assurer la survie de l'espèce.
À partir de 7 ans, elles vont pouvoir avoir un petit, en général tous les 2 ou 3 ans. Et elles pourront avoir un unique petit. Donc en fait, ça ne fait pas beaucoup finalement sur une période de vie qui pouvait aller jusqu'à 24 ans maintenant, qui est diminuée à 17 ans. Ça ne fait pas tant d'occasions que ça pour avoir des jeunes qui vont former la génération suivante.
Pour protéger les dauphins, le gouvernement a interdit la pêche durant 4 semaines l'hiver entre 2024 et 2026. Ça a fonctionné, 60% de captures accidentelles en moins, mais des pertes à hauteur de 35 millions d'euros pour le secteur de la pêche. Le ministère de la Mer refuse pour l'instant de se prononcer sur une nouvelle interdiction en 2027. Des tests sont en cours avec des bateaux équipés de systèmes d'effarouchement.
Merci Paul Tillier. Et revenons comme promis au César, avec ce César d'honneur qui sera remis ce soir à l'acteur qui a à la fois la nationalité canadienne et américaine. C'est Jim Carrey. Il a 64 ans. On n'a pas oublié ses rôles dans The Mask, dans Ace Ventura ou encore dans un tout autre style dans The Truman Show. Mais Camille Marigot, bonjour Camille.
Bonjour.
C'est vrai que Jim Carrey a disparu des radars ces dernières années, donc ce César d'honneur peut surprendre ce soir. Qu'est-ce qu'il devient ?
Il reste un artiste haut en couleur, si l'on peut dire. Jérôme, l'acteur avait annoncé en 2022 vouloir s'éloigner du cinéma pour se consacrer à son autre passion, la peinture.
Je fais une pause. J'apprécie vraiment ma vie tranquille, peindre des toiles, j'aime vraiment ma vie spirituelle et je sens que j'en ai assez fait. Je suis bien comme je suis.
Globalement, cela fait 10 ans que Jim Carrey tourne moins et moins appelé aussi, selon certains médias américains qui évoquent également des épisodes difficiles en privé, ce qui n'empêche pas certains projets récents comme son rôle dans les films Sonic tirés du jeu vidéo. J'avais besoin d'argent, a simplement expliqué Jim Carrey.
Et dans le même temps, Camille, Jim Carrey reste en France l'un des acteurs les plus connus, les plus célébrés. On voit ses films très régulièrement à la télé, par exemple.
Oui, The Mask ou Truman Show qui passent en ce moment, parfois doublés sur certaines de nos chaînes. Ces films ont inspiré, transformé même l'acteur Benjamin Lavergne, le maître de cérémonie, qui remettra ce soir un César d'honneur à Jim Carrey.
The Mask, j'ai reçu une espèce de connexion transcendantale, de truc un peu mystique, de me dire waouh, c'est possible de faire ça sur Terre, qu'un acteur puisse faire ça à l'écran. J'ai eu les larmes aux yeux.
Et Jim Carrey, jamais oscarisé, mais récompensé par 2 Golden Globes et dont les rôles restent des références de la culture populaire, indique l'Académie des Césars.
Merci Camille Marigot. Cérémonie à suivre donc ce soir, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Céline Dacosta. Puis à partir de 13h30, une marque de vêtements française et made in France, c'est rare. Une marque qui augmente sa production, c'est encore plus rare. Le slip français, sa directrice générale est notre invitée. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton, toujours dans les coulisses de la police scientifique. On va parler chimie dans quelques minutes. Et puis 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest et Julien Baldacchino. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Marie-Luce, vous nous parlez de cuisine solidaire.
Oui, avec une femme, Coraline Potier. Coraline Potier, elle a fondé la Casbah. Sa passion, faire mijoter des bouillons de culture. Dans la Nièvre, elle tisse de très nombreux liens entre les réfugiés et les villageois grâce à la cuisine.
Et avec vous, Julien, une chanteuse.
Elle s'appelle Barry, elle vient de sortir un album composé avec 10 créateurs de musique de film et elle raconte la chanson La peau Léon de Jeanne Moreau.
Il y a un jeu de mots peut-être.
Il y en a.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Ce vendredi, jackpot Euromillions de près de 150 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
France Inter, partenaire de l'exposition inédite Simone Veil, mes sœurs et moi, au mémorial de la Shoah. Conçue par le cinéaste et artiste David Teboul, l'exposition permet d'entrer dans l'intimité d'une famille française, juive, laïque et républicaine, bousculée par la guerre. Pour la première fois, les trois sœurs Jacob se racontent avec leurs mots, leurs émotions, leurs blessures, leur bonheur anéanti par la guerre et la vie après les camps. L'exposition Simone Veil, mes sœurs et moi, actuellement au mémorial de la Shoah, entrée gratuite, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
L'ambiance reste printanière.
Oui, c'est vrai que le soleil qui est largement présent, il reste juste un petit peu de grisaille, comme ce matin qui résiste près des littoraux, près de la Méditerranée notamment, sur les côtes du Languedoc-Roussillon. Grisaille qui va se déporter un petit peu vers la côte d'Azur et les côtes est de la Corse. On a encore des nuages bas également des côtes aquitaines jusqu'au Finistère, la pointe du Cotentin jusqu'à la côte d'Opale. Donc c'est toutes les côtes de la Manche qui sont concernées par cette grisaille. Et cette grisaille est accompagnée sur ce secteur en tout cas d'un petit peu de vent, jusqu'à 50 km à l'heure en rafale. Partout ailleurs, on l'a compris, c'est du soleil avec juste un petit voile nuageux quand même entre le Poitou-Charentes, les Hauts-de-France en passant par le bassin parisien.
Qu'est-ce que ça donne pour les températures ?
Alors, on perd quelques degrés par rapport à hier, mais la moyenne est encore 6 à 7 degrés au-dessus des normales de saison, 13 à 22 degrés du nord au sud. Les températures les plus douces sont toujours pour le sud-ouest, 22 degrés attendus à Biarritz au meilleur de l'après-midi, et les plus basses pour le nord-ouest avec 13 petits degrés à Brest.
Céline Dacosta.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Léa Marie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes la directrice générale du Slip Français, cette marque française de sous-vêtements, comme son nom l'indique, mais aussi de vêtements, marque lancée en 2012 avec la promesse d'une fabrication française. 14 ans plus tard, l'entreprise commence à gagner de l'argent, la production décolle au moment même où la concurrence asiatique est la plus forte. Vous allez nous expliquer tout cela. 01 45 24 7000, ça c'est pour les auditeurs qui veulent être avec nous et vous poser leurs questions. Vous passez aussi via l'application Radio France. Là, c'est l'onglet Réagir. Et puis, on parlera aussi de votre parcours, Léa Marie, qui peut donner des idées à toutes celles et à tous ceux qui sont jeunes, qui s'interrogent sur leur carrière et qui nous écoutent, qui sont passionnés par la mode et par le textile. D'abord, la situation du slip français. Si on remonte deux années en arrière, début 2024, le slip français est dans le rouge. Vous lancez une nouvelle gamme de slip avec des prix divisés par deux, 25 euros l'unité. Votre patron, Guillaume Gibault, dit à ce moment-là « ça passe ou ça casse ». Aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est une réussite ?
Ah oui, c'est passé.
C'est passé.
C'est passé. Il y a eu des hauts et des bas, mais c'est passé. Effectivement, quand on est presque au bord de disparaître, on devient très fort. On accepte cette résilience de dire on peut mourir. Donc on a des décisions qui sont très courageuses dans ces moments. Donc moi, j'étais aux côtés de Guillaume. J'ai repris la direction générale fin 2023. Pour en tout cas déployer cette stratégie de dire...
Quelle était la situation, pardonnez-moi,
La situation, deux années de décroissance importante. Donc on vivait au-dessus de nos moyens et surtout nos ventes baissaient. Et moi, quand je suis arrivée au slip, j'ai assez vite identifié le fait que notre santé était calquée sur la santé industrielle textile de la France. Alors ça laissait assez peu de possibilités. Donc il fallait trouver une solution. Je pense que Guillaume, quand il a monté le slip, il était à un prix de sous-vêtements à 25 euros. Et puis avec le temps, l'industrie montant ses prix, lui a monté ses prix de vente jusqu'à atteindre 40 euros.
40 euros. Et à 40 euros, on n'achète pas de slip
Pas
France.
Tous les jours, hein, ouais. En tout cas. Et donc, on cible une typologie de clients qui a des moyens beaucoup plus importants. Et donc, on ne répond pas au besoin qui est de mettre le slip sur le plus de fesses des Français. C'est ça, c'était l'ambition de Guillaume de départ. Et donc, pour ça, eh bien, c'était assez simple. Il fallait dire que le marché était prêt à recevoir, en tout cas, des slips Made in France, mais pas à ce prix-là, et on a divisé les prix par deux.
Ça veut dire que le Made in France, ça peut marcher, mais il y a quand même un plafond qu'on ne peut pas dépasser.
Bah oui, bien sûr. Et puis, on ne doit pas dépasser. Et notre industrie française doit être compétitive. Enfin, c'est un devoir, presque, de devenir compétitif dans notre industrie.
Et c'est une chose de vouloir baisser les prix, je pense que toutes les marques seront d'accord là-dessus, c'est autre chose de pouvoir le faire en produisant en France. Comment avez-vous fait ?
On a travaillé autrement. Aujourd'hui, la majorité des marques, il y a quand même tout un contexte qui s'est passé dans notre industrie. On avait des quotas avant les années 2003. En 2003, on a levé une première partie des quotas à l'import, donc on a pu rentrer plus de marchandises que prévu. Et en 2008, on a levé tous les quotas, donc on n'a plus de régulateur. Hein, et donc c'est normal qu'on ait été envahi par l'import, c'était légitime. Donc aujourd'hui, ces sociétés qui importent, c'est plus facile pour elles aujourd'hui de continuer à acheter loin. Le dollar est favorable, les usines disent oui à tout, il n'y a pas de contraintes. Et pourtant, elles sont en difficulté. C'est ça qui est fou, c'est que malgré tout, elles sont en difficulté. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'à la place de dire notre industrie, elle s'est fabriquée pour ce prix-là, on va faire comme en Asie. On doit vendre à ce prix-là, comment on construit toute la chaîne de fabrication. Et on a réécrit dans le bon sens, avec un prix de marché qui commande l'industrie. Voilà.
Mais vous ne changez pas les règles du jeu, vous ne changez pas les salaires, vous ne changez pas l'environnement économique français.
Pas du tout.
Donc sur quoi est-ce que vous avez gagné pour baisser d'une quinzaine d'euros, par exemple, pour un slip ?
Mais
il y a d'autres exemples pour d'autres types de vêtements ou sous-vêtements.
On prend le prix de marché donc, qui est de 20 euros et on se dit, à grande échelle... mon salaire ou le salaire d'un salarié quand on fabrique 400 000 pièces est le même que quand on fabrique 40 000. Donc tous les coûts fixes, ça c'est des économies d'échelle classiques. Et ensuite, quand on a... Enfin, en France, comme ce qui coûte le plus cher c'est la main-d'œuvre, notre premier outil c'est l'homme. Au Bangladesh, qui coûte le plus cher c'est la matière première, c'est le tissu.
Donc parce que la main-d'œuvre...
La main-d'œuvre n'est pas chère. Donc à partir du moment où on sait que c'est l'homme qui coûte le plus cher, il faut en prendre soin. Et donc, à chaque fois que l'homme mettait du temps à fabriquer, faire une opération, on a décidé d'automatiser cette opération et d'associer l'automate à l'homme et de faire ce bon fonctionnement entre les deux. Ça a pour résultat qu'on va beaucoup plus vite à fabriquer, il y a une régularité de fabrication et surtout, on a un devoir, nous employeurs, de pouvoir mettre des gens derrière des machines sans trop de formation. Aujourd'hui, on n'a plus personne formé dans le textile. Donc, il fallait aussi qu'on ait des outils qui permettent aux gens de se mettre derrière une machine et qu'en quelques jours, soit opérationnel. Sinon, on ne répondait pas aussi à un besoin de société.
Donc, soit on produit du luxe, et là, c'est un produit de main-d'œuvre, soit
exactement.
On fait du nombre, ce que vous avez
et
choisi,
volume.
Et du volume, c'est ça. Et donc là, il faut des machines.
Il faut des machines,
et
bien
donc,
sûr.
Et donc, ça veut dire qu'il y a moins d'hommes, il y a moins d'humains, il y a moins de salariés sur la chaîne de production aujourd'hui,
exactement.
Fatalement.
Exactement. Il y a moins qu'il y a 15 ans. Mais sans ces automates, il n'y aurait plus rien.
Ouais.
On ne serait plus là.
Il faut quand même les acheter, ces machines.
Oui.
Il faut les financer.
Oui.
Comment vous faites à ce moment-là, dans une situation financière qui n'est pas favorable ?
Eh bien non, on a été très sages. Déjà, on a balayé devant notre porte, revu toutes nos dépenses, notre train de vie aussi. Hein. Quand on ne va pas bien à la maison, on revoit son train de vie dans une entreprise, c'est la même chose. Et surtout, comment on a fait ? Eh bien, au fur et à mesure qu'on a commencé à avoir des commandes et un retour sur investissement, on a acheté de plus en plus d'automates. On n'a pas créé du tout de dette dans la création de cet outil. Et je tiens juste à préciser que c'est important. On a toujours la vision que dans le textile, ou en tout cas dans la confection, c'est des investissements lourds. Cette usine, c'est 300 000 euros d'investissement en 2 ans.
À Aubervilliers, au nord de Paris.
Oui. Et vous imaginez qu'on met des machines et du textile dans tous les pays pauvres. On ne pourrait pas en mettre dans des pays riches. Ce serait ça, la définition de ce qu'on croit de l'industrie française. Ce n'est pas possible. C'est très peu onéreux, l'investissement dans l'industrie de confection. Dans le textile, dans tout ce qui est filature, tricotage, c'est des investissements lourds, mais pas dans la confection.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez jamais produit autant ?
Jamais. En tout cas, en France. Aujourd'hui, on fait 24 000 sous-vêtements par semaine dans cette usine, quand la plus grosse usine avec laquelle je travaillais faisait 6 000. Et on est 60 salariés. Donc en plus, vraiment, on a pris le temps de faire grandir cette usine dans le bon ordre, de sécuriser tous nos approvisionnements et aussi de maintenir nos partenaires historique. On continue de travailler avec le Mailleux, on continue de travailler avec Chantel, on continue de travailler avec les Brousseaux pour les chaussettes.
Qui fabriquent pour nous.
On ne peut pas réussir seul. L'industrie française, elle doit se redresser et c'est une réussite collective.
Mais ça veut dire que ces partenaires, ils vous ont suivi dans l'automatisation. Eux aussi, ils produisent différemment aujourd'hui avec moins de main-d'œuvre.
Ouais, ils sont obligés de toute façon. Chantel a investi dans un automate, évidemment. Et ça a redonné aussi du sens aux salariés. De produire des secondes et puis des minutes. C'est ça l'industrie. Hein. On fait bien la différence entre le luxe qui doit maintenir un savoir-faire et beaucoup, beaucoup d'artisanat et ses clés. Nous, on parle d'industrie et donc de volume.
Est-ce que vous avez gardé la même exigence sur la qualité ? Je vous pose la question parce qu'on a ce message de marque. Alors, c'est un message parmi les milliers de clients. Hein. C'est un seul message, mais je vous le livre. Concernant le slip français et ses baisses de prix, c'est au détriment de la qualité, nous dit-il, pour les shorties, en tout cas, moi qui suis client depuis toujours. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Qu'est-ce que vous lui dites ?
Bon, eh bien non, on n'a pas du tout touché. C'est le même tissu, c'est le même élastique. On n'a rien changé. Hein. On peut regarder les deux produits, mais c'est par le volume qu'on est venu gommer ces coûts, et forcément, après que les gens pensent on baisse le prix, on baisse la qualité, c'est quand même assez intuitif comme raisonnement. Ça fait 2 ans qu'on a lancé notre évolution.
Ah oui, 15 euros de moins, c'est énorme sur un produit.
Et puis surtout, s'il y avait un problème de qualité, on l'aurait su, les notes sont favorables, les clients reviennent, on a du réachat tous les 6 mois, et on a eu 200 000 nouveaux clients l'année dernière, donc je n'ai pas de doute sur la qualité.
21 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, plus 16%. Est-ce que vous avez aussi trouvé de nouveaux distributeurs ? Est-ce que vous vendez aujourd'hui dans des endroits où vous ne vendiez pas il y a quelques années?
Oui, tout à fait. On a ouvert à la grande distribution. Pareil, les premiers vendeurs de sous-vêtements ou de chaussettes en France, c'est la grande distribution. C'était une évidence d'aller chez eux. Et sur cette pensée qui dit, mais oh là là, au secours, ça dégrade. Moi, je crois quand même qu'on a une très jolie marque qui est Evian, qui vend des bouteilles en plastique en grande distribution et des bouteilles en verre dans les plus grands hôtels du monde. Donc non, c'est une gamme qui est identique avec une signature un peu différente. Mais oui, on est rentré en grande distribution.
Même si souvent ce qu'on dit, c'est que pour les industriels, vendre en grande distribution, ça veut dire rogner sur les marges et être dans des négociations avec des gens qui sont extrêmement durs, voire à la limite de la légalité parfois.
Moi, je n'ai pas ce sentiment. J'ai travaillé 20 ans pour la grande distribution dans ma vie d'avant. J'ai eu toujours de très bonnes relations avec eux. Il faut poser les règles. Une fois que les règles sont posées, les règles, on les respecte.
La concurrence asiatique, elle est sur le prix, évidemment. Elle est aussi sur la créativité. On a aujourd'hui des enseignes en ligne, des plateformes en ligne comme Shein ou Temu qui, également grâce à l'intelligence artificielle, savent créer des modèles très rapidement, suivre les modes. Comment est-ce que vous faites face à cette concurrence de ce point de vue-là ? Et est-ce que vous utilisez, par exemple, l'intelligence artificielle pour créer les modèles de demain ?
Alors, pour créer les produits, non. On les fait nous, on les pense, on les dessine. Pour faire nos communications, oui, on utilise de l'IA, on a beaucoup d'humour dans nos communications, donc on peut transformer un slip et le faire parler, et ça nous fait rire. Et tant mieux, quand on rit, les clients sont contents en général. En ce qui concerne la concurrence de fast fashion, nous, vraiment, on ne se sent pas trop concernés par le sujet, ça a toujours existé. Je rappelle que quand Zara est arrivé en France, on a hurlé. Après, on a eu H&M, on a hurlé. On a eu Primark, on a hurlé. On a Shein, Temu, on a hurlé. Je pense que ça démobilise. Oui, ils sont là.
Ils peuvent très bien voir un modèle que vous venez de sortir et quelques semaines plus tard ou quelques jours, peut-être proposer exactement le même. En tout cas, visuellement.
Visuellement, oui. Mais on ne parle
vous
pas de la même chose.
Il y a des modèles ressemblants ?
Non, je ne crois pas. Mais ça voudrait dire que je les intéresse et qu'ils me voient. Je ne sais pas si... Voilà, le combat n'est pas là. Ce n'est pas un combat qu'on doit mener. Tous les gens qui ont mené le combat du prix le plus bas vont disparaître ou ont disparu. Il y a beaucoup d'enseignes aujourd'hui de textiles qui sont en souffrance et souvent sont celles qui font ce combat du prix le moins cher.
Est-ce que, je reviens sur votre réponse sur l'intelligence artificielle, pourquoi ne pas l'utiliser dans la conception ou pour essayer de voir ce que ça peut donner sur un modèle, par exemple ?
Alors, dans la conception, on peut l'utiliser. On crée les produits en 3D pour voir comment il va tomber sur le vêtement et ça nous fait gagner beaucoup de temps et surtout d'argent. On ne développe pas des produits pour dire non, ça ne marchera pas, on le fait sur écran. Mais par contre, tout ce qui est création pure de dessin, on le fait nous-mêmes.
L'export, est-ce que c'est une part importante de votre activité dans un contexte international où on sait que les droits de douane sont à nouveau à l'ordre du jour et Donald Trump a remis 10% là en début de semaine après avoir été censuré par la Cour suprême américaine. Est-ce que c'est un sujet pour vous ?
Pas vraiment. On fait 10% de chiffre d'affaires à l'export. Dans ces 10%, il y a 50% qui sont pays frontaliers, Belgique, Allemagne, Suisse. Et puis, on a 50% qui est fait aux États-Unis. Et je pense que plus Donald Trump s'énerve et met des droits de douane importants, plus le client passe des commandes, quoi.
Ah, il y a un contre.
Ouais, il y a un contre. Mais oui, je pense que vraiment, aujourd'hui, le client du slip, il vient pour d'autres valeurs.
Message de Miguel, appel de Miguel de Strasbourg. Vous me parlez d'un prix à 25 euros. Moi, j'ai les moyens, mais je n'achèterai jamais un slip à 25 euros. C'est trop. Ça, c'est intéressant, Léa-Marie, parce que chaque consommateur a dans sa tête un prix pour un produit, le prix qu'il imagine.
Bah, bien sûr, et je respecte ça. Je pense qu'on a chacun nos règles et nos valeurs. Après ça, il y a mettre 20 euros dans un sous-vêtement et l'avoir 2 ans dans son tiroir et se dire « Ah, je suis bien dedans et je me sens fière quand je l'enfile le matin » et vouloir acheter un sous-vêtement à 3 euros et vouloir le changer tous les 3 mois. Chacun adoptera. On sait aujourd'hui expliquer que un emploi dans l'industrie textile en France génère 1,7 emploi sur le territoire. Donc quand nous, on vend plus, on crée de la valeur dans notre pays.
Il nous reste une minute, Léa-Marie, je voulais quand même qu'on parle de votre parcours. Parce que vous avez pris la décision à l'âge de 15 ans de bifurquer dans vos études, enfin de les continuer, mais d'une autre façon, et de faire un BEP couture, et je crois à l'époque, contre l'avis de vos parents.
Oui,
pour quelle
c'est
raison
vrai ça. Mais parce que je pense que c'était pas élitiste, comme beaucoup de parents, ils voulaient que j'aille en seconde. Et moi, j'avais pas du tout envie d'aller en seconde, je voulais aller en BEP couture, j'ai toujours été passionnée. Et donc, pour ne pas y aller, je ne me suis pas présentée au brevet des collèges. Bonne ou mauvaise décision, je ne sais pas si les jeunes m'entendent.
Vous avez séché le brevet.
Ouais, j'y suis pas allée, donc je ne pouvais pas aller en seconde. Et donc j'ai fait mon BEP couture, c'était incroyable, vraiment. Et puis j'ai repris un bac génie mécanique parce que je voulais apprendre la mécanique de machine. Et puis 2 BTS et une école d'ingé, donc en fait c'est possible, tout est possible.
Donc il ne faut pas sécher son brevet, ce n'est pas ça le message.
Non, mais faut non, mais il faut.
Mais il faut aller
au bout de ses idées, ouais. Quitte à désobéir. Et moi, je prône ça même aux jeunes aujourd'hui. Et surtout, je pense que les métiers pro, peu importe le domaine, on va en avoir besoin. On peut pas avoir que des centres commerciaux en France.
Merci Léa-Marie d'avoir été avec nous aujourd'hui, directrice générale du Slip Français. 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie, nous suivons les policiers depuis lundi, les policiers de la police scientifique dans leur labo parisien. Ces policiers sont 3800 en France. Depuis quelques années, ils sont sollicités pour de très nombreuses affaires en raison notamment de leurs compétences en chimie. Et c'est cette division chimie que nous visitons aujourd'hui. On s'intéresse aux drogues et aux produits qu'on peut ingérer volontairement ou pas.
Ça, c'est la partie toxicologie. Donc là, ce que mon collègue prend, c'est des dossiers sécurité routière, urgents, donc dans le cas de garde à vue. Hein. C'est des recherches d'alcool stupéfiant dans la salive en cas de contrôle routier, dans le sang, dans le cas d'un accident, que ce soit matériel, corporel ou mortel. On reçoit 1000 analyses par mois, dont une vingtaine en garde à vue par jour sur la plaque parisienne. Donc Nathalie, chef de la division chimie, expert en toxicologie. Alors là, on va passer sur la partie toxicologie médico-légale. Donc la toxicologie médico-légale, on a plusieurs types d'affaires. On travaille en soumission chimique. Et en soumission chimique, on a notamment en fait, l'analyse de cheveux, qui est importante. Je vais vous montrer.
Parce que ce sont les cheveux qui gardent les substances le plus longtemps.
On va prélever des cheveux à l'arrière du crâne, une petite mèche de cheveux. Et on va rechercher en fait tout type de substances. On peut rechercher le GHB, communément appelé la drogue du violeur, mais qui n'est pas la substance la plus retrouvée. Et loin de là, en fait, ce qu'on retrouve souvent, en fait, c'est des somnifères, des benzodiazépines, des antidépresseurs et des stupéfiants comme la MDMA ou la kétamine. Depuis 2020, on a une nette augmentation et il y a eu des phénomènes comme le phénomène des piqûres en 2022. C'est des gens qui pensaient avoir été drogués, donc quand c'était trop tard, effectivement, il pouvait y avoir aussi des prélèvements de cheveux.
Qui pensaient avoir été piqués dans des rassemblements festifs ?
Il y avait des rassemblements festifs, il y avait les transports en commun, il y avait des gens dans la rue, il y avait aussi des files d'attente des fois. C'était un phénomène très médiatisé, où il y a eu beaucoup de victimes, et maintenant, le phénomène est passé.
Et surtout, vous n'avez trouvé aucun produit.
Non.
S'il y a eu piqûre, il n'y a pas eu d'injection de produit.
Voilà. On est en section stupéfiant. Là, vous voyez, voilà, j'ai une collègue qui analyse des comprimés.
C'est des petits comprimés roses. Vous diriez quoi ?
MDMA, certainement. Des fois, c'est trompeur, justement, parce que les nouveaux produits de synthèse se présentent sous forme de même comprimé. Hein, et on n'a pas toujours la substance que même le consommateur pense consommer. Et c'est vrai qu'on a des équipements qui sont assez bruyants. On travaille avec les deux aéroports parisiens, justement. Tout ce qui va être saisi en fait dans les aéroports, et ça va être bon, alors majoritairement de la cocaïne, mais ils ont aussi beaucoup de cannabis et beaucoup de nouveaux produits de synthèse. Hein. Alors ça permet déjà de connaître la pureté du produit, de faire des alertes, hein. Comme il y a 2 ans l'héroïne qui avait été coupée avec des cannabinoïdes synthèse avec une vague d'overdose, hein. Bah, la section stupéfiante l'a identifiée tout de suite, il y a une alerte qui a été faite au niveau de santé publique et de la NSM. Il va y avoir aussi un fichier national, hein, où on rentre tout, on va un comprimé de MDMA, voilà, avec le logo, la pureté, et qui permet de faire des rapprochements d'affaires effectivement au niveau des services. Hein. J'ai une formation de chimiste et j'ai fait aussi de la toxicologie. J'étais attirée par les sciences, hein, mais également par la police. Et c'est vrai que pour concilier les deux, là, c'est vrai que c'est des choses qui sont concrètes, où on a des résultats rapides. Hein, et on peut aussi être utile à la population et à la sécurité au niveau national. Et c'est ça qui m'intéressait. Ouais.
Feuilleton signé Sarah Guibaudot, suite et fin demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le jeudi 13h50, la France à table, avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Marie-Luce, vous nous emmenez aujourd'hui dans la Nièvre, où une association fait se rencontrer réfugiés et habitants autour de la cuisine.
Quand je prépare mes recettes pour la Casbah, je me mets à chanter et toute ma tristesse s'envole. Cette voix, c'est celle de Fatouma Camara. Elle a 28 ans, elle est arrivée dans le Morvan en 2023. En Guinée, sa famille l'a forcée à épouser un homme beaucoup plus âgé qu'elle, alors elle a fui. Aujourd'hui, elle vit seule avec sa fille à Nevers. Et la Casbah, pour elle, c'est une bouffée d'air, un endroit pour rompre la solitude, pour recréer du lien.
Et c'est là qu'elle a rencontré Coraline Potier.
Fatouma l'appelle ma sœur. Coraline a 48 ans et est aussi douce que déterminée. Elle a grandi dans le restaurant de ses grands-parents, s'est occupée de personnes handicapées, a travaillé au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Luzi. En 2019, un problème de santé a tout stoppé, mais une idée a jailli, celle de créer des ateliers culinaires pour tisser des liens entre les habitants et les réfugiés. Et ainsi faire tomber les préjugés. Que ce soit en Somalie, en Albanie ou en France, nous dit-elle, nous pleurons tous en épluchant un oignon. La cuisine n'a pas besoin de mots, les gestes, les regards suffisent pour se comprendre. Au tout début, en 2021, elle organise 2 ateliers. Aujourd'hui, il y en a 60 répartis sur tout le territoire du Morvan et de la Nièvre.
Concrètement, Marie-Luce, comment se déroulent ces ateliers ?
Oui, alors Coraline débarque avec un réfugié dans un village prêt à ouvrir les portes de son centre social ou de sa salle des fêtes. Moyennant une 15aine d'euros, 10 personnes viennent cuisiner et déguster ses recettes d'ailleurs. On écoute la personne raconter son odyssée sur fond de musique de son pays. Et très vite, chacun parle de sa vie. Il n'est pas rare d'y rencontrer des personnes âgées isolées. Pour Justine Guérin, maire de Luzi, 2000 habitants, c'est incroyable le nombre de personnes qui se sont liées alors qu'elles n'auraient jamais dû se rencontrer. En quelques années, Jérôme, la Casbah a bien grandi. C'est désormais aussi des grands banquets festifs, des démonstrations sur les marchés de producteurs, des interventions en milieu scolaire.
Et ce que vous nous dites aussi, Marie-Luce, c'est que ça n'est sans doute pas le fruit du hasard si la Casbah est née dans cette région, car elle a historiquement le sens de l'accueil.
Oui, en effet, la Casbah a ceci d'exceptionnel, elle s'est développée dans un univers très rural. Pour autant, il n'est pas surprenant qu'elle ait germé ici. Je ne sais pas si vous connaissez cette spécificité des nourrices morvandelles.
Non.
Du début du 19e siècle jusqu'aux années 1970, de nombreuses femmes ont accueilli ici des orphelins de Paris. Contre 1000 francs, elles les élevaient au sein de leur famille. 50 000 petits Paris, c'est ainsi qu'on les nommait, ont grandi dans la Nièvre. L'écrivain Jean Genet fut l'un d'entre eux.
On va donc rester dans la Nièvre pour la recette du jour, signée de la Casbah.
Il s'agit du soukar, le plat somalien de Saïna Bessaad. Découpé 750 g de bœuf pour ragoût en petits morceaux, lavé, épluché et coupé 2 oignons, 2 gousses d'ail, 3 pommes de terre, 3 carottes, 1 poivron rouge et 1 vert. Faites revenir viande et oignons quelques minutes dans une sauteuse. Ajoutez les carottes, les pommes de terre, du sel, 2 cuillères de bouillon de légumes déshydratés, 1 de cumin, 1 de curcuma, quelques feuilles de coriandre et 1 de laurier. Versez un peu d'eau, les poivrons et laissez mijoter à couvert. À la fin, on saupoudrera le soukar de cette phrase de Coraline. Je crois que j'ai toujours tout transformé en richesse.
Magnifique histoire racontée dans ce C'est la France par Marylus Ribot. Merci infiniment Marylus. De C'est la France à C'est une chanson. Aujourd'hui, Julien Baldacchino, vous recevez une actrice qui est aussi une chanteuse.
Elle s'appelle Barry Violaine Guilibert, de son vrai nom. Elle s'était faite remarquer il y a quelques années avec un album hommage à Marie Laforêt et elle vient de sortir un nouvel album dont elle a écrit les textes mais dont elle a confié les musiques à des compositeurs de musique de film comme Gabriel Yared ou Martin Rapneau. Elle a choisi de parler d'un titre d'une autre actrice et chanteuse, Jeanne Moreau, et la chanson s'appelle « La peau Léon ».
C'était au lycée, j'avais 16-17 ans, et notre professeur de lettres, j'étais en L, nous avait fait étudier Jules et Jim, le roman. Et on avait vu aussi le film, et donc Jeanne Moreau sublime dans ce film. J'avais un petit groupe d'amis, on faisait du théâtre aussi, on adorait la chanson, les mots, les jeux de mots. Et on a eu un coup de cœur pour Jeanne Moreau. Elle avait fait ce disque avec Serge Rezvani, qui est auteur-compositeur des 3/4 de ses grands succès, dont cette chanson, qui m'a laissé un souvenir particulier parce que elle est très amusante. Déjà, elle est très dure à chanter.
J'aime ton odeur, ta saveur, Léon. T'es pas beau, Léon. T'as les cheveux longs. Mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, Léon.
Il joue beaucoup, un peu à la Raymond Queneau, avec, c'est des jeux de mots, des jeux de sons, et elle est d'une cruauté absolument incroyable. C'est sur un tango, donc c'est un duel, un duo. Et cette cruauté est interprétée par Jeanne Moreau dans une douceur, un calme serein. Ben, c'est Jeanne Moreau, quoi.
Mais j'adore tes mirettes qui se brouillent quand tu me dis que tu vas dans Napoléon, tu vas dans Napoléon, tu vas dans Napoléon, Léon, 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 Léon.
À chaque refrain, on avance dans cette histoire qu'elle nous narre, mais elle s'adresse à lui. Au début, c'est « tu m'as dans la peau, je t'ai dans la peau, Léon ». Après, c'est « tu l'as dans la peau, Léon ». Après, c'est « j'aurai ta peau, Léon ». Et après, j'ai eu ta peau, Léon.
Cette femme plus que nature, en couleur plus que pure, cette roulure sans pelure qui roulait en voiture.
Une chanson sortie en 1963, c'est la même année, Julien, que J'ai la mémoire qui flanche.
Elle aussi, écrite et composée par Serge Rezvani. Et derrière la légèreté de la chanson, Barry a une lecture plus profonde.
C'est comme, vous savez, les chansons pour les enfants, où finalement, c'est des années plus tard qu'on comprend ce que ça racontait. C'est souvent des trucs super cruels, mais avec des mots rigolos à chanter, des sons. Et c'était plus ça, c'était qu'elle était dure à chanter, donc ça nous amusait de dire « tu m'as dans la peau, Léon, tu m'as dans la peau, Léon, 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 Léon. » C'est très dur à dire. C'est comme une pièce de théâtre. Et c'est bien plus tard que j'ai eu envie, j'ai monté un moment, j'adore les paroles des chansons. Vous savez, ces vérités qui, tout à coup, que ce soit avec humour ou dramaturgie, nous font du bien, parce que c'est ce qu'on vit, ce qu'on ressent.
Et il y a une vérité dans cette chanson-là qui vous touche, qui vous parle particulièrement. Il y a quelque chose qui vraiment vous touche au cœur.
Oui, il y a quelque chose de très joli dans cette chanson, c'est-à-dire qu'il joue beaucoup avec les codes du tango, des accélérations comme ça. Et puis la fin, le dernier couplet, où en fait, elle raconte comment elle l'a tué, on passe un peu dans la valse. Ça devient tout à coup très doux, avec un léger sourire, et parce que finalement, le cœur n'est plus en contact. C'est aussi qu'il lui a fait tellement mal, c'est vraiment une flèche dans le cœur, cette trahison. Ça me touche, parce que je pense qu'au sens figuré, peut-être, avons-nous tous à un moment eu envie de tuer un homme dans son manque de courage ou sa trahison. Je pense que la même chanson, avec une autre interprète, ou une Jeanne Moreau qui tout à coup aurait été au premier degré de tout ce qu'elle raconte, je pense qu'on ne la recevait plus. C'est comme quelqu'un qui vous parle doucement, ou quelqu'un qui vous hurle dessus, ça ne va pas marcher pareil.
Pour une étoile dont la peau n'est qu'un rayon, un halo, nébuleuse, vapeur, sans chaleur.
Jeanne Moreau, avec cette chanson, avec cet album, et puis avec les autres chansons, elle fait aussi le pont entre le cinéma et la chanson, c'est ce que vous faites aussi dans votre album. Pourquoi est-ce que les deux marchent aussi bien ensemble ?
Ils se nourrissent énormément. Dans mes textes, souvent, c'est une image qui est restée en tête, c'est une émotion. Et je les écris souvent un peu comme une scène, comme un enchaînement visuel d'images, souvent intérieures. Et je pense qu'un film avec quelques notes de musique ou un morceau qui tout à coup envahit l'image, ça décuple. On se sent vivant ou on comprend mieux comment on est vivant devant un film ou en écoutant la musique.
Tu n'auras pas vécu bien vieux, c'était qu'une petite écorchure sur la peau de ta figure que tu te fis au rasoir. Je l'avais mouillée de curare. J'ai eu Napoléon, j'ai eu Napoléon, j'ai eu Napoléon, Léon, 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 Léon.
La peau Léon de Jeanne Moreau, c'était le choix de la chanteuse Barry.
Et son album s'appelle Faces, 10 collaborations avec des compositeurs pour un album très cinématographique.